vivant dans nos mémoires.
À l'émission « Vivant dans nos mémoires », nous vous proposons une entrevue avec Van Nguyen Nguyen, pharmacienne et chercheuse retraitée, auteure du récit de vie « Du lotus au sapin » aux éditions Gide. Elle est décédée en 2021. Danny Benz l'avait rencontrée en mai 2016.
Aujourd'hui, nous allons voyager très loin, puisque notre invité est né et a passé sa jeunesse à Hanoï, au Vietnam, son adolescence et le début de sa vie adulte à Saïgon, dans le sud du pays, 4 années en Europe pour poursuivre ses études et, après avoir épousé un Québécois, habite maintenant Québec depuis plus de 40 ans. Elle vient de faire paraître un livre très documenté et très éclairant sur son parcours. Il s'intitule « Du lotus au sapin, récit d'une immigrante vietnamienne au Québec ». Van Duong Nguyen, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom?
Oui, Van Duong Nguyen.
Van Duong Nguyen.
Ça s'écrit en D, mais ça prononce comme Z en vietnamien.
OK. Et ça veut dire quoi?
Ça veut dire Van Duong, ça veut dire « bon nuage ».
Bon nuage?
Oui.
Oh, c'est beau, c'est beau. Alors, quelques mots d'abord sur la rédaction de ce livre qui vient de paraître, je le disais. Vous avez commencé à avoir l'idée d'écrire votre récit de vie en 2012, et ça, c'était l'année du dragon.
Oui.
Et c'est important pour
vous?
Oui,
c'est important. Je dois vous dire pourquoi. C'est parce que en 2012, j'ai complété un grand cycle de 72 ans. Selon l'astrologie chinoise. Et c'est un moment important pour nous de faire quelque chose d'important dans la vie. Et j'ai pensé à écrire mon livre tout d'abord parce que je voulais laisser des traces de mon origine à mes petits-enfants d'abord. Et ensuite, j'ai pensé aux jeunes Vietnamiens qui sont nés à l'étranger ou qui sont venus à l'étranger à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc, ces jeunes Vietnamiens-là, aujourd'hui, on estime à peu près 1 million de jeunes Vietnamiens dans le monde entier.
Oui.
Et ces jeunes-là, à cause de la guerre, à cause de leur arrivée ici, ou bien née ici, et leur arrivée à l'âge de 4 ou 5 ans. Donc, ils ne connaissent rien sur la culture vietnamienne, sur la tradition vietnamienne.
Mm-hmm.
Et ils ne connaissent pas comment nos parents, comment nos grands-parents vivaient autrefois.
Oui.
Donc, j'ai pensé à eux, et parce qu'au moins, je peux laisser quelque chose pour eux après. Et maintenant, des gens de même 40 ans, 50 ans, et avec la coutume, la tradition vietnamienne, ils sont complètement ignorants.
Oui. D'ailleurs, c'est ça, c'est un livre très bien écrit, d'une part.
Merci.
Je veux le souligner, où on retrouve plusieurs photographies avec des détails, justement, qui oui. permettent même aux Québécois, aux non-vietnamiens,
même, oui.
d'en apprendre beaucoup. Alors,
même pour les Vietnamiens.
Même pour oui. les Vietnamiens. Est-ce que pour vous, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, vous êtes pharmacienne de formation, vous avez aussi suivi des études supérieures pour devenir chercheuse en pharmacie. Pour vous, écrire, est-ce que c'est quelque chose de difficile, de douloureux ou c'est quelque chose d'agréable?
Pour moi, c'est quelque chose d'agréable.
Oui.
C'est parce que dans ma tête, je voudrais raconter tous mes souvenirs d'enfance et toutes mes expériences vécues. Donc, j'ai une bonne mémoire. Donc, ça coulait comme ça. J'écrivais très, très vite. Mais quand même, mon français n'est pas très bien. Donc,
mais là, vous avez été aidé par des personnes parce qu'il est très, très bien écrit, je tiens à le dire.
Merci.
Alors, on va entendre ce premier choix musical que vous nous offrez. Vous nous l'avez apporté. Ça vient du Vietnam. Et puis après, quand on aura entendu la chanson, vous allez nous l'expliquer un petit peu.
D'accord.
C'est une très jolie mélodie, une très belle musique que nous offre notre invitée aujourd'hui, Madame Nguyen. Voulez-vous nous parler de cette pièce?
Oui, le titre de la chanson est « Mon village » et joué avec l'instrument de musique de vietnamienne, de sitar, à 16 cordes.
Oui.
Oui, et vous entendez très bien le son. Et j'aime bien, c'est parce que c'est joué avec aujourd'hui, avec la sitar, et c'est très beau.
Oui. Alors, on vient d'entendre cette version instrumentale, mais d'habitude, elle est chantée, cette chanson-là de mon village. Et qu'est-ce qu'elle dit, en quelques mots, la chanson?
Oui, je vais vous faire un petit résumé. Le titre est « Mon village ».« Mon village a des banyans hauts jusqu'au ciel ». Mon village a des beaux fleuves qui serpentent autour. Mon village a des petits hameaux, les uns appuyés aux autres. Mon village a des feuilles de bambou qui embrassent des araignées. Oh, que c'est beau le paysage de mon village.
Oh oui, ça fait une belle description, effectivement. Ouais. Alors, on y va justement dans ce Vietnam qui vous a vu naître, Madame Nguyen. Vous avez passé les 14 premières années de votre vie à Hanoï.
Oui.
Et donc... À cette période-là, quand même, il y avait le reste de la famille qui était pas loin. Vos grands-parents, vous les avez bien connus.
Oui.
Votre grand-mère était pour vous une personne très importante. Parlez-nous un petit peu de la famille.
OK. Donc, je suis née à Hanoï en 1940. Et à ma naissance, c'est l'arrivée de l'armée japonaise.
Mm.
Et... ensuite, jusqu'à 54, c'était toujours la guerre là-bas, au nord.
Oui.
C'est la guerre entre les Français et les Japonais et le Parti communiste vietnamien et les autres partis populaires vietnamiens contre les Français.
Oui.
Donc, je vivais à Hanoï. Quand même, c'était assez tranquille parce que la guerre était plutôt autour à la campagne.
Mm-hmm.
Sauf en 46, la guerre était à Hanoï même, de rue en rue. Et à ce moment-là, on nous a obligés de quitter Hanoï parce que les partis envoient des bandes 24 sur 24 dans les rues de Hanoï. Mais notre famille ne pouvait pas quitter, c'est parce que ma mère était enceinte au dernier mois.
Mm.
Et pour l'accouchement, c'était vraiment un événement douloureux et important.
Mm.
Et elle a dû grimper et descendre une fois l'escalier de bambou pour aller jusqu'à l'hôpital chinois derrière notre rue.
Mm.
Et... ensuite, on vivait dans la petite maison, toute la famille, pendant 3 mois, confinée pendant 3 mois.
Ça devait eau, être très difficile.
Oui, sans eau ni électricité. Et on n'osait pas parler fort non plus, on n'osait pas même tousser. Parce que les gens qui passent devant la maison, qui frappent tous les jours à la porte, pour nous obliger de sortir,
partir.
Mm. De Hanoï. Donc, ces 3 mois-là étaient très difficiles pour nous, pour notre famille. Et la naissance de mon frère, le sixième, était normal. Mais en rentrant à la maison, il avait une maladie inexplicable. Parce qu'il vomissait sans arrêt, avec toutes sortes de sauts de couleurs différentes.
Mm-hmm.
Et on ne savait vraiment pas pourquoi, même les médecins ne pouvaient pas savoir c'est quoi. Et c'est le grand événement en 46, mais en général, ma vie depuis ma naissance jusqu'à 14 ans, j'ai eu la chance de vivre chez mes grands-parents. Et surtout, ma grand-mère est pour moi une personne très importante. Elle n'est pas une lettrée, mais elle a beaucoup de savoir-faire, elle a beaucoup d'expérience de vie. Et elle savait tout. Et elle m'a enseigné en même temps comment, à part la tradition vietnamienne, comment on peut soigner les poulets malades. Comment on peut préparer du riz à partir du pâté? Comment, qu'est-ce qu'on peut donner aux cochons? Tout était cela. Donc, c'était une période très importante pour moi et j'étais heureuse avec ma grand-mère.
Oui. C'était elle venait d'une famille de la lignée de médecins traditionnels.
Oui. Et son père était un médecin traditionnel. Et tandis que mon grand-père maternel aussi est un médecin traditionnel.
Et votre père, lui, qu'est-ce qu'il faisait?
Mon père, il est né à notre village à Bắc Ninh, à peu près de 20 km de Hanoï. Et il suivait des cours créé par l'école française à Hanoï à ce moment-là, parce que ça n'existait pas des écoles en vietnamien. Donc, il suivit des cours à l'école secondaire. Ensuite, il a trouvé un travail à la bibliothèque d'Indochine, on appelait à ce moment-là, parce que ça servait le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Il travaillait au dépôt légal à la bibliothèque d'Indochine.
Et des fois, vous avez accompagné votre père hein, avec votre frère.
Oui.
Mais vous n'avez pas écouté ce que votre père vous demandait de faire.
À ce moment-là, moi et mon petit frère, mon souvenir le plus important, c'est que mon père nous amenait à la bibliothèque pour le... pour laisser ma mère le temps de s'occuper des autres enfants. Et comme il travaille au dépôt légal, il y a beaucoup de livres, beaucoup de livres. Et moi et mon frère, on avait pensé à sauter par la fenêtre pour aller emprunter en cachette. Je ne dis pas voler, mais emprunter en cachette des livres. Puis apporter à la maison pour lire en cachette. Puis après... Après, la prochaine fois, on les a rendus à la bibliothèque puis emprunté d'autres livres. C'est pour ça que j'ai eu la chance de lire beaucoup à l'âge de 10 ans et 11 ans.
Oui.
Des revues, des premières revues publiées en vietnamien que plusieurs personnes n'avaient pas la chance de lire ces choses-là.
Vous aimez bien apprendre déjà, hein?
Oui, j'étais curieuse, là.
Ouais.
Et j'aimais bien lire des choses. Pourtant, mon père m'avait interdit de lire parce qu'il m'a dit qu'il faut que tu te concentres aux études et non pas lire des romans, des revues, ça va te distraire. Tout était en cachette.
Il y avait, et c'est bien expliqué dans votre livre, et c'est fort intéressant, une hiérarchie très importante dans la société vietnamienne à cette époque-là. C'est un principe où les hommes sont plus importants que les femmes, les garçons plus importants que les filles.
Oui.
Vous expliquez aussi qu'il y a le culte des ancêtres, c'est réservé seulement pour les hommes. Qu'est-ce que c'est exactement le culte des ancêtres?
Le culte des ancêtres, c'est notre façon, et c'est une bonne coutume aussi, c'est notre façon de montrer notre reconnaissance envers nos parents, envers nos grands-parents et tous nos ancêtres, parce que c'est grâce à eux qu'on est né, et puis grâce à leur éducation, à leur amour, qu'on vit à la vie d'une façon vraiment bien, heureux avec la famille.
Oui. Alors, est-ce qu'on fait des choses particulières à certains moments donnés, parce qu'il y a des hôtels, des ancêtres dans les maisons?
Oui. Dans la plupart des maisons, c'est la grande place de la maison que les gens à l'hôtel des ancêtres, surtout au salon. Et nous, on fait le culte des ancêtres, c'est le moment le plus important, c'est au Nouvel An. On appelle le Tết par les Vietnamiens. Et pendant les premiers 3 jours du Nouvel An, on fait des repas élaborés. On fait un gâteau, on appelle gâteau le bánh chưng, gâteau de riz spécial, pour offrir aux ancêtres. Et au moment du passage de l'ancienne année à la nouvelle année, là, mon père se prosterne devant l'hôtel des ancêtres pour inviter nos ancêtres à venir partager avec nous le bon repas d'abord et nous bénir pour la nouvelle année. Et on annonce en même temps des événements heureux de notre vie de l'an passé. C'est comme notre rapport, on considère comme ils étaient vivants.
Oui.
Donc c'est très important pour nous. Et pendant 3 jours du Nouvel An, donc on fait les repas tous les jours. Et puis mon père se protège pendant 3 jours, ça, tous les jours.
Madame Nguyen, c'est une autre chanson que vous avez choisie qui parle de l'amour du pays en quelques mots. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson?
Oui, je vais vous faire un petit résumé. Mon pays a beaucoup de petits fleuves jolis. Mon pays a des rizières carrées, pleines d'eau pour nous donner du riz doré deux fois par année. Les villageois y vivent heureux et tous les soirs on entend dans l'air le son mélodieux de la flûte.
c'est très romantique. C'est très romantique et c'est très poétique. c'est Denis Benz au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette émission. C'est la suite de notre rencontre avec l'invité cette semaine, qui est Madame Van Thuong Nguyen. Elle vient de faire paraître « Du lotus au sapin », récit d'une immigrante vietnamienne au Québec. C'est publié par les éditions GID. Un très beau récit qui nous explique vraiment les mentalités, l'histoire de son Vietnam natal et aussi sa vie à elle. Madame Nguyen, on s'est laissé. Vous étiez toujours à Hanoï, mais en 1954, les communistes, ils décident que là, ce serait important de garder le nord du pays. Hein? Puis,
les communistes ont gagné la guerre.
Ils ont gagné, oui. Puis là, ils ont, dans le fond, poussé la population à faire des choix. Si vous restez ici, à Hanoï, c'est communiste. Mais il y avait aussi cette décision, grave décision, que votre famille a dû prendre. Est-ce qu'on quitte tout ça pour aller vers Saïgon, dans le sud du pays, à plus de 1500 kilomètres? Ça n'a pas été une décision facile.
Non, pas du tout. Et je dois vous dire qu'en 1954, c'était très difficile, surtout pour mes parents, de décider d'y rester ou bien de tout quitter pour aller à Saigon. Et à la fin, mon père se posternait devant l'autel des ancêtres comme pour demander l'avis de nos ancêtres, qu'est-ce qu'on devait faire. Et il a fait deux morceaux de papier, oui, partir, non, rester. Et après, il a fait le tirage, tiré au sort. Et ensuite, le jour même, il nous a annoncé que nos ancêtres ont dit qu'il faut quitter Hanoï. Et on a décidé de, pendant un temps très court, de tout vendre de la maison, les meubles dans la maison,
les souvenirs, tout, pour
gagner quelques sous pour aller au sud. Parce que nous n'avions pas beaucoup d'argent et nous connaissons personne au sud. Donc c'était une aventure vraiment incroyable. Et le sacrifice de mes parents que je comprends aujourd'hui, la douleur de ma grand-mère, tout ça. Mais on a décidé, donc pendant à peu près de deux mois, parce que la suite de Điện Biên Phủ était au mois de juillet, puis on devait quitter vers mi-août, septembre, au plus tard. Et nous avons quitté Hanoï avec beaucoup de douleur, mais pour nous, les jeunes, on était un peu contents parce qu'on aimait l'aventure.
Oui, effectivement. Et donc, il y a 1500 kilomètres qui séparent ces deux villes, mais c'est une région complètement différente. Vous êtes arrivés là-bas, la prononciation de la langue, c'était pas pareil. Il a fallu s'adapter à l'endroit, beaucoup plus au sud, beaucoup plus chaud, avec même des fruits que vous n'aviez peut-être jamais vu, hein? Et la mentalité aussi différente. C'était plus facile, la mentalité à Saïgon?
Pour moi, en 1954, je trouvais au début, c'était très difficile. Surtout la langue, la prononciation, la coutume, la chaleur aussi. Mais peu à peu, on était habitué un peu. Et ce qui était difficile pour nous, c'est que à Hanoï, au nord, on avait tout, puis au sud, on n'avait plus rien. Donc, on vivait dans une petite maison louée, dans un quartier populaire, comme c'est décrit dans mon livre. Le trottoir, c'était des planches de bois, et en bas, c'est l'égout. Donc, chaque fois qu'on sortait de la maison, ça sentait tellement mauvais et insupportable. Ensuite, la difficulté, c'est que ma mère devait retourner à Hải Phòng pour vendre son stock de tissus. Parce que après 1954, on avait un temps de tampon de 3 mois. Pour que les gens peuvent décider de quitter ou non, ou rester à Hanoï, ou retourner à Hanoï pour les affaires. Et à ce moment-là, moi, à 14 ans, et ma soeur, à 17 ans, devait remplacer ma mère.
À la maison.
À la maison. nourrir 8 personnes. Puis à cet âge-là, ma soeur a commencé à apprendre comment faire cuire du riz. Et puis moi, à 14 ans, je ne savais pas faire la cuisine, donc je devais aller au marché le matin, acheter des légumes, le poisson frais. Et en après-midi, je suis allée à l'école.
Ouais.
Et à l'école, il y a toutes sortes de problèmes aussi à cause des accents et tout ça.
Mais ouais. Il y avait plusieurs de vos amis de l'école qui avaient fait le même chemin que vous. Vous avez ouais. retrouvé vos amis dans l'école où vous avez été à Saïgon.
Oui.
Ça devait être une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose, mais au début, nous devons partager l'école avec les étudiants vietnamiens du Sud. Et on se sentait un peu isolé parce qu'on n'osait pas se parler, ouais. les étudiants du Nord et du Sud. Et après, on a divisé en deux, c'est nous, les étudiants du Sud viennent le matin. Et nous, on prenait l'école en après-midi
oui.
pour étudier.
Alors, vous avez fini tout votre parcours scolaire et tout ça. Et puis, votre famille aurait bien aimé que vous soyez médecin, mais vous, le sang, vous aimiez pas trop ça.
J'ai peur, chaque fois que je vais couler le sang, j'ai vraiment peur.
Alors, vous avez décidé d'aller en pharmacie. C'est quand même pas très loin de la médecine. Et puis, dans votre famille, étant d'une lignée de médecins traditionnels, vous aviez déjà de intérêt pour ça, la pharmacie. Alors, vous avez fait vos études et puis vous avez travaillé en pharmacie quelques années. Puis à un moment donné, vous avez décidé de changer et de vouloir poursuivre vos études en Europe, c'est ça?
Oui.
Vous êtes partie en quelle année?
Je suis partie en 68. Ça veut dire quelques années après avoir ouvert ma pharmacie à Saigon. Et je trouvais que c'était un peu plate pour moi de vendre le médicament tous les jours derrière le comptoir. Et j'étais curieux aussi, je voudrais savoir c'est quoi la fabrication des médicaments.
Oui.
Donc j'ai décidé d'aller en Europe pour poursuivre mes études.
Alors, on vous retrouve, c'est bien raconté dans le livre aussi, à Louvain, en Belgique. Et puis, après ça, vous êtes allé en France. On va écouter ce premier choix musical à l'émission. Et puis, on poursuit avec vous ce parcours de vie.
OK.
J'ai pour toi un lac quelque part au monde. Un beau lac tout bleu, comme un œil ouvert sur la nuit profonde, un cristal frileux qui tremble à ton nom comme tremble feuille à brise d'automne et chanson d'hiver. Si mire le temps, si meurt et si cueille mes jours à l'endroit, mes nuits à l'envers. J'ai pour toi très loin une promenade sur un sable doux. Des milliers de pas sans bruit, sans parade, vers on ne sait où. Et les doigts du vent des saisons entières y ont dessiné comme sur nos fronts les vagues du jour fendues des croisières, des beaux naufragés que nous y ferons. J'ai pour toi défait, mais refait sans cesse les mille châteaux d'un nuage ami qui pour ma princesse se ferait bateau, se ferait pommier, se ferait couronne, se ferait panier plein de fruits vermeils, et moi je serais celui qui te donne la terre et la lune avec leur soleil. J'ai pour toi l'amour, quelque part au monde. Ne le laisse pas se perdre à la ronde.
On peut dire que l'œuvre de Gilles Vigneault est toute belle, mais cette chanson est particulièrement jolie aussi. Et elle a un sens pour vous, Madame Nguyen, qui est particulier.
Oui, j'ai bien aimé cette chanson-là. Et aussi, ça me rappelle les beaux souvenirs quand j'étais à Paris. Et c'est mon fiancé qui m'a envoyé cette chanson-là.
Alors, on va expliquer à l'auditoire, parce que c'est une très belle histoire, parce que vous êtes une très jolie femme, même pour votre âge. Alors, on devine que quand vous étiez jeune, il y a eu des prétendants, il y en a eu, hein? Des
Merci.
Gens qui voulaient... mais vous, là, vous aviez décidé de choisir comme il faut.
Oui.
Alors, vous étiez donc aux études, et là, il s'est formé un groupe d'étudiants à Paris qui ont décidé d'aller faire un voyage organisé en Italie.
Oui.
Belle occasion.
Mais oui, c'était organisé par un organisme français et subventionné par le gouvernement français.
OK.
Et à ce moment-là, on était très pauvres, étudiants pauvres, donc... Un voyage en Italie, ça nous coûte quelques centaines de francs, de l'ancien franc. Mm. Et puis, on a le voyage à Venise, à Florence, à trois ou quatre villes, tout compris les repas, les hôtels, tout ça. Donc, pendant le voyage, là, il y a beaucoup de nationalités différentes.
Vous êtes 40 à peu près?
Oui, à peu près, là. Mm-hmm. Il y avait des Vietnamiens, il y avait des Belges, il y avait des Américains, il y avait des Canadiens et tout ça. C'est un beau groupe d'étudiants. Et un soir, donc, avant de finir le voyage, le groupe a eu l'idée de donner deux prix. Le prix d'orange pour la personne qui est le plus sympathique. Et le prix de citron pour la personne la plus arrogante. Et puis, après, on a fait des votes. Et puis après, c'est mon fiancé qui a gagné le prix d'orange.
Alors, c'est un Québécois qui a gagné le prix orange.
Oui.
Et il est devenu votre fiancé après.
Oui.
C'était pas votre fiancé avant.
Non, non. C'est
alors, ça a
avant.
Commencé par une orange.
Ben
en
oui.
Italie. En c'est Italie. Merveilleux. Quelle belle histoire. Alors, c'est un étudiant en quoi?
Il était étudiant parce qu'il est spécialiste en Inuit. Étudiant à Paris. Il faisait le doctorat plutôt à Paris. Pour finir sa thèse sur les Inuits, sur la langue Inuit.
Sur la langue Inuit.
Oui, plutôt. Et à ce moment-là, rentrant à Paris, on a cherché les occasions pour se rencontrer. Et après tout ça, nous avons décidé que oui, on va se marier. Et moi, c'est la première fois de ma vie en pensant à quitter Paris. Puis je connaissais rien de Montréal,
l'Amérique du Nord.
Je connaissais rien du tout. Et surtout le Québec, personne ne parlait du Québec à ce moment-là à l'étranger.
Vous êtes arrivée ici en 1972.
12, oui.
Il n'y avait pas beaucoup de Vietnamiens non plus encore à cette époque-là. Ils sont arrivés un peu plus tard.
À ce moment-là, il y avait un petit groupe d'étudiants vietnamiens déjà installés à l'Université Laval. Mais pas beaucoup. Et moi, j'étais parmi les premiers immigrants au Québec à ce moment-là, parce que les étudiants vietnamiens sont déjà habitués à la vie québécoise, tandis que moi, je suis arrivée, là, je ne connaissais rien.
Non. Alors, il y a eu un choc culturel, j'imagine.
Oui.
Rien que la fourchette et le couteau, c'est déjà quelque chose.
Oui.
Il faut se le dire. Hein?
Mais oui.
S'habituer à la nourriture.
La nourriture et le...
La température.
Mais oui, je ne savais pas qu'il fait si froid ici.
Il ne vous l'a pas dit, hein, votre spécialiste.
Mais non. Tandis qu'à Paris, à peu près 0 degré en hiver, ouais. Et c'était déjà, il faisait déjà froid à Paris.
Oui.
Mais ici, je ne savais même pas, ça peut descendre jusqu'à moins 15, moins 20.
Oui, c'est dur, hein, ça?
C'était très dur au début, mais c'est surtout, moi j'étais peut-être chanceuse aussi de rencontrer la belle famille à Montréal.
Oui.
Parce que mes beaux-parents, je les aime beaucoup et je les admire beaucoup dès le début.
Oui.
C'est parce que mon beau-père était un avocat à Montréal et c'est lui qui a préparé mon contrat de mariage.
Oui.
Et il m'a protégée dans le contrat plutôt que protéger son fils. Donc il dit.
Un grand cœur.
Oui. On dit au cas de divorce, mon mari doit me verser tant montant d'argent, tout ça à ce moment-là. J'ai signé le contrat aveuglement. Et parce que j'ai confiance à mon beau-père, mais seulement après que j'ai appris qu'il a fait beaucoup de clauses pour me protéger.
Oui. Il faut dire, en 1972, hein, dans la région de Québec particulièrement, vous avez essayé de travailler dans des pharmacies. Vous étiez quand même pharmacienne. Vous aviez appris le français nécessairement puisque vous aviez étudié à Louvain et à Paris.
Oui.
Et ça a été très difficile. C'était pas une période économiquement facile, mais dans cette situation-là, vous n'avez pas trouvé facilement. Ça a été très difficile de trouver cette place finalement à l'hôpital. Saint-François d'Assise.
Oui, ça veut dire à ce moment-là, c'était le règlement de l'ordre des pharmaciens. Mm. Parce qu'on ne reconnaît pas mon diplôme vietnamien, même le diplôme belgique. Donc, on m'a obligé de faire un stage d'un an pour me recycler
oui,
ici.
C'est ça. Oui. Mais ça a finalement oui. marché grâce à ça, pas de vin.
Oui, oui, heureusement.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendue pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop chèvrette en il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit Lopentin.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Changer en fait des
soir danser.
Cette magnifique chanson de mes aïeux décrit l'histoire du Québec, mais en fait de plein de sociétés à travers ces générations-là. C'est quelque chose qui vous a marqué, Madame Nguyen, cette chanson?
Moi, j'ai bien aimé cette chanson-là, oui, parce que ça décrit vraiment l'évolution de la société québécoise avec les générations des jeunes aujourd'hui.
Oui.
X, Y, et Tessera.
Oui.
Et je trouve ça décrit très bien la situation de la société québécoise et aussi la société de maintenant aujourd'hui, là, c'est là, dans le monde entier, oui, c'est à peu près la même chose.
Exactement, c'est une,
oui,
chanson visionnaire de,
oui,
ce point de vue-là.
Oui, c'est vraiment bien.
Madame Nguyen, vous avez donc épousé un Québécois spécialiste de la langue inuit et vous avez eu deux enfants, un garçon et une fille. Votre garçon, il est dans le domaine de la littérature,
oui,
et votre fille dans le domaine du droit, comme son grand-père.
Oui. Non, je suis contente, c'est parce qu'en éducation, j'ai laissé à mes enfants de choisir le domaine qu'ils aiment. Bien que je souhaitais qu'ils deviennent pharmaciens ou médecins comme moi, mais eux, ils ont aimé la littérature, mon fils, la littérature. Et ma fille, elle aime bien raisonner dès qu'elle avait 3 ans. Donc, elle a aimé le droit aussi, bien raisonner dans son domaine. Donc, elle a réussi chaque an dans son domaine.
Oui.
Oui, c'est...
Est-ce qu'il il enseigne, votre fils?
Mon fils enseigne au cégep de Sorem,
mm-hmm,
en littérature en français. Puis ma fille travaille pour la régie de logement comme avocate.
Comme avocate, oui, c'est ça. Et vous avez aussi deux petits-enfants.
Oui.
Des petits-enfants, mais qui sont, oui, grands. Des petits-grands-enfants.
Des petits-grands-enfants. J'ai un petit-fils qui s'appelle Orian Kim Lee. Je lui donne aussi le nom vietnamien. Et une petite-fille, Viviane Thanh Mai, ça veut dire la fleur d'abricotier verte.
Mm-hmm.
Et Kim Lee, c'est le licorne doré. Et comme mon fils, ça s'est donné aussi le nom Kim Long, ça veut dire le dragon doré. Ça veut dire David doré, doré. Puis
oui, oui,
ça,
oui.
Et ma fille Sophie, c'est Sophie Thanh Lan. Ça veut dire Sophie orchidée verte.
Orchidée verte,
oui, ouais.
Des beaux noms. Alors, vous êtes arrivée ici dans une famille québécoise, celle de votre mari,
oui,
et vous avez décidé, bien sûr, de donner une éducation, je dirais, à la québécoise.
À la québécoise.
C'est ça,
oui,
à vos enfants.
Oui, parce que moi, personnellement, je trouve que l'éducation québécoise, c'est très bien. Tandis que l'éducation vietnamienne dans mon temps, par exemple, on suivi de A à Z tout ce que les professeurs nous disaient. Puis on a peur
de poser
des questions non,
oui,
plus.
Non.
Donc, c'est suivre les enseignements des profs d'une façon aveugle.
Oui.
Et je trouve que ce n'est pas très bon pour un enfant qui puisse développer
selon ses capacités,
oui, capacités,
personnalité.
Et un esprit de critique aussi.
Oui. J'aimerais aussi qu'on parle de ça parce que vous avez décidé, avec d'autres personnes, de fonder l'Association des femmes vietnamiennes de Québec.
Oui.
Quelle était la raison de cette fondation?
La fondation, c'était commencé en 85.
Mm-hmm.
À ce moment-là, il y avait plusieurs réfugiés vietnamiens.
Oui, les boat people.
Les boat people, mm-hmm, tout ça. Et j'ai pensé à aider les femmes, surtout immigrants, et pour leur donner des instructions, des renseignements sur la société québécoise,
oui,
pour les guider comment on peut s'intégrer à la société québécoise et,
oui,
apprendre les lois, les règlements ici, juste pour les informations, pour les immigrants et pour les femmes.
Est-ce qu'elle existe encore, l'association?
Non, malheureusement, maintenant, la plupart des gens sont déménagés à Toronto et à Montréal. Il oui. reste à Québec seulement quelques personnes.
Oui.
Et
Mais il y a d'autres associations d'accueil des immigrants maintenant qui s'occupent de façon générale de toutes sortes de personnes qui viennent de oui. plusieurs pays
oui,
différents.
Oui, c'est ça. C'est le Centre international des femmes là, où j'étais membre du conseil d'administration aussi.
Oui.
C'est pour aider les femmes de différents pays.
Alors, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous avez mené à bien pendant plusieurs années.
Mm.
Maintenant, avec l'écriture de ce livre-là, Madame Nguyen, est-ce que vous avez déjà eu des échos? Est-ce qu'il y a des gens qui vous en ont déjà parlé de votre livre depuis que vous l'avez fait publier?
Oui, j'ai eu plusieurs commentaires et tous les commentaires sont très positifs. Les gens ont bien aimé mon livre. Et je suis tellement contente de ces commentaires-là.
Et vos enfants et petits-enfants, est-ce qu'ils l'ont lu aussi?
Oui, oui.
Oui?
Ils ont bien aimé aussi. Et pour moi, là, c'est mon héritage spirituel pour mes enfants et mes petits-enfants et pour les jeunes vietnamiens.
Alors, c'est vraiment, vraiment très intéressant, mesdames et messieurs. J'aimerais le rappeler, du lotus au sapin. Récit d'une immigrante vietnamienne au Québec, c'est paru aux éditions Gide. C'est de Madame Van Thuong Nguyen.
Oui,
c'est ça, avec
ça.
Un très beau lotus que vous avez peint parce que maintenant vous vous adonnez à la peinture aussi.
Oui, j'aime bien. Au début, j'ai suivi un cours de peinture acrylique ici à Saint Communautaire. Puis depuis peu, je me suis initiée à la peinture asiatique.
Oui.
Parce que je peux manipuler le pinceau chinois. Là, donc, j'aime bien là, parce que là, les couleurs aussi. Mais d'habitude, là, les peintures chinoises traditionnelles, là, c'est noir.
Oui.
Avec l'encre chinoise.
Oui.
Mais maintenant, j'ajoute des couleurs.
Oui, parce que vous êtes intégrée.
Oui.
Vous êtes une femme qui avait tellement intégré de choses. Ça a été un plaisir que de faire votre connaissance. Merci beaucoup de votre passage à nos studios.
C'est moi qui vous remercie.
À Vivant dans nos mémoires, vous venez d'entendre une entrevue réalisée en mai 2016 par Danny Benz avec Van Thuong Nguyen, pharmacienne et chercheuse retraitée, auteure du récit de vie « Du lotus au sapin » aux éditions Gide. Elle est décédée en 2021.